Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs de Principes Actifs. On est très heureux, le groupe d'Amnesty d'Evreux est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission mensuelle. Je rappelle pour tous les étourdis qui ne s'en souviennent pas qu'elle a lieu tous les derniers mardis du mois, de 20h à 21h. Donc, nous allons vous parler de l'actualité vue par le regard d'Amnesty, de différents sujets toujours vus par le regard d'Amnesty, et aussi de différentes choses peut-être vues de façon un petit peu plus large, entre guillemets, que le regard d'Amnesty, mais qui concernent toujours la défense des droits humains, puisque nous sommes là pour ça, et nous sommes là pour en parler, et nous sommes là pour y participer, et nous sommes là pour lutter pour ça. Voilà. Ce soir, participe à l'émission, parce que l'autre fois j'avais omis de citer des participantes et on m'a longuement reproché, donc voilà, honte à moi. Ce soir participe à l'émission Sabine.
Bonsoir, bonsoir Sabine. Bonsoir tout le monde.
Et Mina. Bonsoir Mina.
Bonsoir.
Donc Sabine va vous parler tout à l'heure d'un gros dossier à propos de la situation des droits humains en Russie, vaste sujet, grave sujet, important sujet. Et Mina va vous parler d'informations locales, de bonnes nouvelles et aussi de petites notes de lecture dont elle a le secret et dont elle vous parlera tout à l'heure. Donc on va commencer ce soir, moi j'ai préparé un petit sujet sur quelque chose qui est un petit peu rébarbatif, mais peut-être, j'espère que non, mais qui en tout cas est tout à fait important, qui est les quelques dérives concernant la situation des droits humains en France. À travers un sujet qui s'appelle la possibilité de recours administratif envers les gens en situation de réfugiés. Alors je vais vous expliquer effectivement en deux mots en quoi ça consiste, mais tout d'abord je voudrais rappeler effectivement que cet été nous avons vécu une situation tout à fait alarmante en France en termes de droits humains, puisqu'il y a eu pas mal de déclarations de différents responsables politiques qui ressemblaient plus à des dérives qu'autre chose, qui ont fait qu'Amnesty a publié plusieurs communiqués disant que, par exemple, qu'il s'agisse de l'évacuation des campements illicites des Roms, des gens du voyage, des peines incompressibles, de la déchéance de la nationalité française, de la responsabilité des parents lorsque les mineurs commettent des infractions ou la décision d'engager une guerre contre les trafiquants et les délinquants, Amnesty s'inquiète des graves conséquences ou des décisions ou des mesures présentes ou futures que des décisions ou des mesures présentes ou futures pourraient avoir sur les droits humains. L'association demande aux autorités françaises de s'abstenir de toute action qui mettrait en danger les valeurs, les principes et les garanties juridiques qui sous-tendent l'ordre démocratique évoqué par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La protection des droits de tous ceux qui vivent en France ne passe ni par une déclaration de guerre, ni par des propos qui contribuent à jeter de l'huile sur le feu, ni par des lois de circonstances susceptibles d'accroître les discriminations, les injustices et les tensions, et qui seraient dans plusieurs cas contraires aux engagements internationaux de notre pays. Bon, c'est peut-être des commentaires qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre en France, pays autoproclamé patrie des droits humains. Je dis bien autoproclamé parce que c'est un vaste sujet qu'on n'entendra pas ce soir. Et mon pays démocratique qui ne figure pas jusqu'à présent parmi les pays urgents dans l'optique d'Amnesty. Bon, c'est vrai qu'Amnesty travaille sur des pays où les droits humains sont beaucoup plus malmenés qu'en France en termes généraux. Mais cependant, il est tout à fait important de considérer qu'il y a une dérive effectivement sécuritaire qui n'est pas nouvelle mais qui a tendance à s'accentuer ces derniers temps et qui va jusqu'à effectivement pour Amnesty remettre un certain nombre de droits démocratiques en cause. La situation est donc suffisamment importante pour en parler. Et parmi cette dérive sécuritaire et cette dérive, disons, de répression, on peut citer un point de droit qui est le recours suspensif en matière d'asile qui est remis en cause actuellement, enfin du moins que l'État français se refuse à appliquer de façon correcte. En deux mots, bon, il s'agit des gens qui demandent l'asile politique en France, l'asile politique étant effectivement une demande de séjour pour pouvoir effectivement, disons, être à l'abri de persécutions ou de menaces par rapport à sa vie qu'on a dans son pays d'origine. Ça fait partie des droits fondamentaux humains qui sont répertoriés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore une fois, et que la France s'est engagée à respecter. Or, il y a un organisme qui s'appelle l'OFPRA, donc qui est un organisme paritaire qui s'occupe de statuer sur les demandes des gens qui font des demandes d'asile politique en France, qui est un organisme paritaire chapeauté par l'État et différents ministères. J'ai la composition ici, mais je vous en ferai grâce. Et donc, cet organisme statue sur les demandes des gens qui font des demandes d'asile politique. À partir de ces demandes, les demandes qui sont rejetées, et les demandes rejetées sont de plus en plus importantes, puisque les dernières années, on notait jusqu'à plus de 90% de rejet des demandes des gens qui faisaient une demande d'asile politique en France. Ils sont donc extrêmement importants. Ces gens-là, en fait, peuvent être victimes de la procédure d'expulsion dite prioritaire, c'est-à-dire qu'une fois que l'OFPRA a refusé leur demande d'asile politique, ils peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine sans qu'ils aient un recours juridique qui permette de contester cette décision. C'est sur ce point-là qu'Amnesty, parmi toutes les campagnes qu'elle a menées cet été, a mis le doigt dessus, en disant effectivement qu'il est tout à fait anormal que l'OFPRA ait un pouvoir effectivement permettant à ces gens-là d'être envoyés dans leur pays sans autre forme de procès, je dirais. Alors c'est pas du tout une situation marginale, parce qu'à l'heure actuelle, en 2009, il y a eu 8 632 personnes qui ont été victimes de cette mesure, et pour lesquelles effectivement l'expulsion était plus ou moins, dans les pays d'origine, était plus ou moins à la clé. Amnesty s'est longuement développé des argumentaires, dont là aussi je vous ferai un bref résumé, en disant que ce recours suspensif permettant de contester les avis de l'OFPRA faisait partie des droits humains fondamentaux, qui sont répertoriés par différentes instances internationales. C'est vrai, par exemple, pour le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, qui n'exclut pas le recours à des procédures prioritaires dans des cas strictement limités, mais il indique qu'en raison de graves conséquences d'une décision erronée, toutes les garanties procédurales doivent être respectées, notamment un recours suspensif en cas de rejet de la demande. Donc la situation en France est en porte-à-faux par rapport au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce qui est quand même un comble. Et il faudrait qu'en cas de refus de sa demande, l'intéressé ait la possibilité de faire revoir la décision négative avant d'être rejeté à la frontière ou expulsé du territoire. Les gouvernements des pays où il n'existe pas de disposition en ce sens devraient envisager favorablement l'idée d'en établir. Ce qui est effectivement le cas en France, puisque la procédure existe de façon théorique, mais la législation française, pour l'instant, refuse de l'adopter. La Cour européenne des droits de l'homme va dans le même sens et donc demande à la France effectivement d'adopter cette procédure de recours suspensif. Actuellement, elle est saisie de 7 requêtes dirigées contre la France sur ce sujet. Donc la Cour européenne des droits de l'homme est en ligne de mire, on peut dire, l'État français par rapport à sa non-conformité vis-à-vis de la réglementation internationale. Le comité contre la torture, il est bien évident que les gens qui sont réfugiés, qui demandent de l'asile politique en France, peuvent être victimes chez eux très souvent de répression pouvant aller jusqu'à la torture. Donc le comité contre la torture va dans le même sens. Et s'est dit préoccupé du fait que 22% des demandes d'asile présentées en 2009 auraient été traitées sous la procédure dite prioritaire, cette procédure qui permet à l'OFPRA de ne pas respecter la mesure de recours suspensif. Il en va de même pour le Comité des droits de l'homme, qui s'est également inquiété de la situation. On voit que ce sont autant d'instances officielles qui sont chargées du respect des droits de l'homme, mais on s'aperçoit que l'État français, effectivement, met en porte-à-faux par rapport à tous ces organismes-là, ce qui est quand même tout à fait inquiétant. Donc Amnesty n'a eu de cesse de réclamer effectivement la mise en conformité de la loi française par rapport à ce recours suspensif, et a mené différentes campagnes, alors toujours avec la même méthode, c'est-à-dire que d'une part au niveau de la section française, il y a différents recours qui ont été envoyés au gouvernement français, différentes demandes de mise en conformité de la légalité française vis-à-vis de ce recours suspensif, et également dans les groupes. Alors nous, au niveau du groupe d'Evreux, on y a participé, puisqu'on a été amené à faire signer des pétitions. On en a fait signer par exemple au Festival Rock, pour ceux qui y étaient, effectivement, il y avait des pétitions à signer qui allaient dans ce sens-là. Pétition adressée aux députés, qu'on a fait suivre donc à la rentrée de septembre aux députés de nos circonscriptions, en leur demandant d'intervenir sur l'aspect réglementaire par rapport à cet élargissement du recours suspensif de la décision de rejet de l'OFPRA. Donc les députés nous ont répondu, effectivement, bon, ce sont des réponses en général, des réponses de politesse, mais ce sont quand même des choses importantes qui permettent de leur montrer que le public que nous sommes est d'une part suffisamment bien informé pour se préoccuper de ce genre de choses, et que d'autre part, effectivement, nous ne sommes pas dupes du discours politique ambiant et de l'aspect archi-sécuritaire qui va avec. Donc, je vais vous citer un petit cas très simple de ce que ça représente, effectivement, ce recours suspensif et en quoi c'est important. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui figure dans le dossier d'Amnesty. La situation suivante, loin d'être un cas d'école, illustre parfaitement les conséquences de l'absence de tout recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile en procédure prioritaire. En mai 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie en extrême urgence pour éviter le renvoi imminent d'un demandeur d'asile congolais, M. T., qui avait témoigné lors du procès de Brazzaville en 2005 dans l'affaire des disparus du Beach. Les disparus du Beach, je me suis un petit peu renseigné pour vous résumer en deux mots, c'était suite à la guerre civile au Congo, un couloir sécuritaire qui avait été établi entre les deux Congos, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, pour permettre à des gens effectivement qui avaient participé, enfin qui avaient été victimes de déplacements de population pendant la guerre civile, de rentrer chez eux en toute sécurité. En fait, de rentrer chez eux en toute sécurité, on estime qu'il y a au moins 350 personnes qui ont utilisé ce couloir, qui ont disparu purement et simplement. Donc M. T faisait partie de ce convoi. Il avait fui la guerre civile et s'était réfugié de l'autre côté du fleuve Congo, en République démocratique du Congo. Lors de l'appel lancé au nom de la réconciliation nationale, il était rentré à Brazzaville en mai 1999. Lors de ses convois de retour, plus de 350 personnes, comme je vous le disais, ont disparu. Il a échappé de justesse à la mort. Suite à son témoignage, lors du procès de Brazzaville en 2005, il était menacé et avait fui en France, où sa demande d'asile a été rejetée. Il a été placé en rétention et s'est trouvé sous le coup d'une mesure d'éloignement. Le juge administratif saisi n'a vu aucun risque en cas de renvoi. C'est quand même un comble. Quelqu'un, effectivement, qui est menacé de mort chez lui, et un juge décide que le fait de le renvoyer chez lui ne présente pas de risque particulier. La Cour européenne a néanmoins suspendu son éloignement. Monsieur T a finalement été reconnu réfugié en octobre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, au motif qu'en raison du témoignage qu'il avait produit auprès d'un avocat des parties civiles au procès de 2005, des recherches ont été lancées à son encontre, que dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme craignant d'être persuadé qu'en cas de retour dans son pays, du fait des opinions politiques qui lui sont imputées. Sans le recours du juge européen, Monsieur T aurait été renvoyé vers ses persécutions. Bon, voilà effectivement autant de situations qui sont particulièrement intolérables pour Amnesty, qui a donc lutté tout l'été pour essayer de faire passer cette modification de la loi par rapport au recours suspensif du droit d'asile. Bon, malheureusement, pour l'instant, on ne veut pas vous cacher que la situation n'a pas beaucoup avancé. La loi sur les migrants et les demandeurs d'asile qui a été revotée à la fin du mois de septembre, c'est pour ça aussi qu'Amnesty a mené une action pendant tout l'été dernier, qui a été votée au mois de décembre, ne reprend pas ces propos-là pour l'instant, et donc effectivement continue à considérer que l'OFPRA est juge en la matière avec aucun recours suspensif, et donc que l'État français est toujours en situation illégale par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme, au moins sur ce plan-là. Donc c'est effectivement quelque chose qui est important à savoir, qui n'est encore une fois qui n'est pas négligeable, et qui montre bien qu'il y a effectivement chez nous, à l'heure actuelle, une certaine dégradation, même s'il y a pire ailleurs, bien évidemment, mais une certaine dégradation en termes de respect des droits humains. Bon, il faut bien voir que l'action pour l'instant n'est pas finie, que malgré tout, effectivement, on continuera au niveau d'Amnesty à intervenir au niveau des élus, au niveau des instances officielles, qu'elles soient nationales, régionales, locales, etc., etc., pour dire qu'on continue à être pas d'accord, pour dire une modification de cette loi qui a été votée, et pour dire effectivement que ces gens-là, qui sont des demandeurs d'asile, qui sont menacés dans leur pays, ont tout à fait le droit, effectivement, de séjourner chez nous en toute légalité, puisque de toute façon, la France a signé tous les textes d'acceptation de ce type de migrants, a signé tous les textes internationaux en la matière et donc doit les respecter. Bien, sujet un petit peu ardu pour commencer, parce qu'on parle de justice, c'est pas toujours facile d'en parler simplement, mais bon, je pense qu'après la petite pause musicale qui va suivre, et il y a Mina qui va vous parler de choses peut-être plus radiophoniques, dirons-nous, et donc pour l'instant un petit peu de musique et à tout de suite.
Sans écoute ni regard pour ces milliers d'histoires qui jonglent sur un fil. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du fond s'ouvre mal. Un plein de perdus qui résonne. Voilà pour la caisse autour de la terre. Et je me blouse positif en me racontant des histoires de fées et de sorcières. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un étoile d'autoroute. Je défilerai plutôt du genre départemental. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. La porte du mal s'ouvre bien. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle et on n'entend pas. Quelqu'un appelle, on n'entend pas.
Alors, le petit moment info, loisirs. Donc, je vais commencer tout d'abord par la Journée internationale des droits de l'enfant, qui sera le 20 novembre. Et à cette occasion, je vais vous lire un petit texte édité dans l'agenda des droits de l'enfant au concours d'affiches des Francas, qui expose bien la situation actuelle où... défendre les droits, c'est très important, mais continuer à agir sur le terrain, c'est aussi important. Le 20 novembre dernier, le monde entier a célébré le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, des manifestations festives ont été organisées un peu partout. Les pouvoirs publics français ont rappelé, émus, leur attachement indéfectible au principe de la Convention. Et tout le monde était content. La défense des droits de l'enfant ne peut pourtant pas se limiter à des incantations stériles ou à une journée de commémoration. L'évolution de la place des mineurs dans la société française est en effet préoccupante. Handicapés, sans papiers, pauvres ou délinquants, les enfants restent des enfants. Les pouvoirs publics et les médias mettent trop souvent en avant leur soi-disant dangerosité ou leur déviance plus que leur nécessaire protection. Leur droit à l'expression, à l'éducation, aux loisirs sont trop souvent négligés, voire bafoués. 193 pays ont ratifié la Convention. Ils se sont engagés à garantir ces droits pour tous les enfants, sans distinction et sans considération de leur origine nationale, sociale, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. De nombreuses associations dénoncent pourtant régulièrement les régressions et les durcissements de nos politiques publiques à l'égard de l'enfance. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a émis récemment de profondes réserves sur la politique française de l'enfance. La suppression programmée par le gouvernement de l'institution du défenseur des enfants est également une régression inacceptable. Les Francas, à travers de nombreuses initiatives organisées en partenariat avec d'autres organisations et institutions, ont réaffirmé l'importance et la nécessité de l'implication de tous pour une application pleine et entière de cette convention. Les droits de l'enfant ne sont pas divisibles. À côté des nécessaires droits de protection contre la violence, la maltraitance et de prestations, éducation, loisirs, santé, les droits de participation doivent être reconnus à chaque enfant. Liberté de conscience, expression, association. Les droits de l'enfant n'ont pas besoin de cotillons ou de gâteaux d'anniversaire, mais de politiques concrètes et de promesses tenues. Chaque citoyen doit se mobiliser pour que les engagements soient respectés. Voilà ce petit texte qui explicite bien la situation actuelle et la défense des droits humains qui doit continuer et l'action.
Si je peux faire un tout petit commentaire sur ce que vient de dire Mina, qui est tout à fait important.
Oui, Didier.
C'est que les droits des enfants, c'est ce qui m'a frappé dans la phrase, c'est les droits des enfants ne sont pas divisibles. C'est exactement la même chose par rapport aux droits des réfugiés, effectivement, qui ne sont pas divisibles. Les droits ne sont jamais divisibles. Et on ne peut pas faire, effectivement, deux cas particuliers en disant il y a une tranche de ceci pour telle population, une tranche de cela pour telle population. C'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et Amnesty refusera, effectivement, toujours ce genre de comportement.
Oui, d'où je me suis permis... ce petit texte qui est très pertinent. Voilà. La suite des loisirs, des infos locales. Donc, il faut savoir que du 17 au 20 novembre, sur Évreux, il y aura le festival du film de l'éducation, avec beaucoup de films aussi bien sur un jeune homme qui est passionné de rugby et qui va partager ça avec un enfant qui vit Paul-Henri en Afrique du Sud. Voilà. Après, sur Évreux, du 13 au 20 novembre 2010, la semaine du handicap. À cette occasion, il y aura un conte en langage des signes français à la médiathèque à 20h30. Je crois normalement, à mes dernières informations, qu'il n'y a pas de réservation. Donc, il faut venir et s'il y a de la place, bah, tant mieux. Il y a aussi un spectacle à la salle Jules Janin le vendredi après-midi. Et pour d'autres renseignements, il faut se renseigner à la Maison de la Santé. Pour terminer sur les sorties du mois de novembre, le 29 novembre, Amnesty organise, comme chaque année, l'Expo Vente Artisanale et la Foire aux Livres à la Halle des Expos. Donc Didier, je te laisse expliquer cette journée.
Sur la Foire Artisanale.
Oui, la Foire aux Livres aussi. Comme c'est une nouveauté.
Oui. Mon Dieu, tu me prends de court.
Ah oui, mais il faut qu'on parle de la Foire aux Livres.
Bon, donc l'Expo Artisanale, ça fait partie des traditions sur Amnesty maintenant, puisque ça doit faire 27 ans, je crois, qu'on fait cette Foire Exposition. Moi, je suis arrivé dans le groupe bien après les premières Foires Exposition. Je tiens à préciser qu'effectivement, on peut trouver des adhérents dans le groupe à travers la Foire Exposition. Moi, j'ai adhéré à Amnesty Évreux. J'étais intéressé déjà par Amnesty. Mais j'ai adhéré à Amnesty Évreux à travers la Foire Exposition. Donc, comme quoi, ça marche. Et donc, cette foire a lieu tous les ans, le dernier dimanche du mois de novembre. Elle réunit une trentaine, entre 30 et 40 artisans qui présentent leur production de très grande qualité, bon, qui permettent effectivement de voir autre chose que ce qu'on voit dans les grandes surfaces aussi par rapport aux cadeaux de Noël et aux cadeaux qu'on peut se faire à cette époque-là. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. C'est aussi des gens qui ont besoin de travailler pour vivre parce que c'est leur propre production qu'ils mettent en vente. Donc c'est important aussi de les soutenir. Et cette année, effectivement, ça permet aussi à Amnesty, bien sûr, de présenter ses campagnes, de faire signer ses pétitions, de présenter nos actions, etc., 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 chose qu'on ne manque pas de faire à chaque fois. Mais cette année, effectivement, il y a une nouveauté qui est organisée avec l'aide du groupe de Louviers, une première foire aux livres, une foire aux livres d'occasion, qui va être effectivement une vente de bouquins mis à disposition par Amnesty Louviers, et un petit peu de bouquins qu'on va avoir nous, et qui va permettre effectivement aux gens de venir acquérir des bouquins pour un prix modique, et à la fois de soutenir Amnesty financièrement, et aussi de se procurer des livres par un autre biais que le biais des bouquins neufs, qui souvent effectivement est assez élevé et pose des problèmes financiers dans pas mal de familles. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport, bien sûr ce sont des livres qui sont en relation avec les thèmes qu'on défend, mais pas exclusivement, il y a aussi des livres d'histoire, il y a aussi pas mal de livres effectivement qui seront mis à la disposition du public. Donc c'est une première qu'on fait, on espère que ça va attirer pas mal de gens, et puis si ça marche bien, ce sera la première et pas la dernière, effectivement, foire aux livres organisée par Amnesty Évreux. Voilà.
Merci Didier. Et justement, moi je vais vous proposer trois livres. Donc le premier, ça va être « Au nom du peuple ougour » de Rebiya Kadir, la dissidente du Xinjiang. Ses discours courageux et radicaux ont permis de sortir les Ouïghours d'un relatif anonymat. Depuis des années, Rebiya Kadir est la porte-parole infatigable de ces 9 millions de musulmans turcophones que Pékin, à l'instar des Tibétains, tente d'assimiler. Tragiquement, avec succès, puisque désormais les Ouïghours se retrouvent minoritaires dans leur propre province du Xinjiang ou Turkestan oriental. Pourtant, Rebiya Kadir incarna un temps un modèle d'assimilation, confiante dans l'autonomie promise par le régime aux minorités ethniques. Issue d'un milieu très pauvre, elle avait bâti d'un véritable empire commercial fondé sur l'import-export. Mais en 1997, la femme d'affaires traverse le miroir à l'occasion du massacre des jeunes Ouïghours, massacre de Kulja. Ses prises de position sans détour à l'égard des autorités chinoises vont bientôt la conduire pendant 7 ans dans les geôles d'Urumqi. À sa sortie en 2005, elle est envoyée en exil pour raisons médicales aux États-Unis. Ses mémoires sont celles d'une femme affranchie. Donc à lire, au nom du peuple Ouïghour, Rebiya Kadir, l'archipel 2010. Ensuite, deux autres livres dont je ne vais pas vous faire le résumé. Donc, Darfour en détresse. Donc, c'est un livre de photographie écrit par un journaliste, édité même, Jérôme Toubiana. Donc, on peut le trouver chez Glénat en partenariat avec Amnesty, ce livre. Et le deuxième livre, c'est Les Voix des Cités de Flo Jallier. C'est son premier roman. Donc, c'est une histoire de copines qui vivent, ont grandi ensemble. À voir, à lire. Donc, c'est de Chérien d'Abysse, édition Montparnasse, environ 20 euros. Voilà. Et pour finir, vous avez dû entendre parler de l'attribution du prix Nobel de la paix 2010, le 8 octobre dernier, à Liu Xiaobo, militant des droits humains chinois. Donc, cet universitaire et auteur purge une peine de 11 ans pour incitation à la subversion de l'État, prononcée contre lui à l'issue d'un procès unique. Espérons à présent que cette attribution maintienne l'attention sur la lutte pour les libertés fondamentales et la protection concrète des droits humains dans ce pays avec lequel il est si difficile d'instaurer un dialogue. Pour essayer de libérer notre prix Nobel, il y a toujours la pétition en ligne sur le site d'Amnesty France. Et maintenant, la pause musicale.
Et la tempête est programmée, se bat de plus en plus vite, où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terroriste officiel. Les gains multi pour instaurer la surveillance et la peur. Éteint ta télé, et leurs émissions d'arriérés. Éteint ta télé, avant de finir complètement aliénés. Propagande de peur pour une soumission officielle. Métro boulot d'odométrie officielle. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Et pour bientôt, peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Une prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclu en propageant l'exclusion. Exploitent les plus pauvres avant la case d'expulsion. Font la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Wesh les voiles, les dérangent, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice ou on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi. Tant qu'ils n'y croient plus, on a besoin de toi. Ma sœur, on a besoin de toi. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. La tempête a commencé avant même de combattre. Trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire, saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre dans quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuf. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu.
Fire!
système n'a rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant le détruire, on n'est que le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les leurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.
Parce que même si ce système s'exprime...
Bien, nous voilà revenus sur l'antenne de Principe Actif, donc toujours le groupe d'Amnesty d'Evreux, Sabine, Mina et Didier. On s'est rendu compte qu'on a fait une petite omission, donc on va réparer tout de suite. On a oublié de vous annoncer les musiques qu'on vous a passées. Donc en premier, il y avait Paul Person, Quelqu'un appelle. Donc je trouve que c'était un titre qui était tout à fait en rapport avec la mission d'Amnesty. On écoute les gens qui appellent. Deuxième titre, c'était Kenny Arcana, Réveillez-vous. Et voilà. Et donc, petit rappel aussi pendant qu'on y est, c'est que il est important aussi de donner une suite à ce que vous entendez là à la radio. Donc pour ça, il y a deux outils très simples. Il y a le site d'Amnesty, Amnesty France, www.amnesty.fr. Et il y a plein de choses à voir, à lire, à faire, plein de pétitions à signer, plein de docs à récupérer. Il y a aussi le site international en français qui est www.amnesty.org. Vous demandez la version française et vous avez le site de Londres, puisque c'est à Londres, mais en version française. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas non plus à nous contacter au niveau d'Evreux. Je vous rappelle notre adresse email. Amnesty, amnesty.evreux@gmail.com. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées, vos demandes d'informations, si vous voulez participer à des choses, si vous voulez des informations sur ce qu'on fait. On est tout à fait là pour vous répondre. Et maintenant, il y a Sabine qui va vous parler de l'actualité d'un dossier important aussi, et la situation en Russie.
Oui, bonsoir. Alors, je vais vous parler de la liberté assassinée. C'est un événement qui a eu lieu le 6 octobre 2010, organisé par Amnesty International et Reporters sans frontières, et qui a été organisé à l'occasion de la commémoration de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui a été assassinée le 7 octobre 2006. Donc, c'est un événement de protestation contre la chape de plomb qui pèse sur les défenseurs des droits humains, sur les membres d'ONG, sur les militants, les journalistes, et toute personne qui use activement de sa liberté d'expression en Russie. Le 6 octobre 2010... a été un jour de protestation, l'occasion de dénoncer à nouveau la place quasi inexistante de la liberté d'expression en Russie et les multiples entraves dont elle est victime. L'impunité dont bénéficient les auteurs d'assassinats de militants de la société civile et de journalistes est persistante. L'action de la société civile est limitée. Le droit à la liberté de réunion est bafoué. Les manifestations ont été interdites à nouveau. Bon, les gens continuent à y aller. Les persécutions de journalistes sont incessantes. Et les assassinats également. Autant d'exemples préoccupants qui vont à l'encontre des engagements que la Russie a pris en devenant partie à des traités internationaux relatifs aux droits humains. Malgré ce climat, militants et journalistes continuent de s'exprimer et d'œuvrer de différentes manières pour faire entendre leurs préoccupations et assurer la défense et la protection des droits humains. Donc Amnesty et Reporters sans frontières dénoncent l'impunité des assassinats des défenseurs et des journalistes et exigent que la justice soit rendue. Ils appellent les autorités russes à respecter la liberté d'expression telle que garantie par la constitution russe. Et les appels à soutenir aussi la société civile russe, de continuer au renforcement de la visibilité de ces initiatives. L'environnement de travail des journalistes, avocats universitaires ou militants en Russie ne cesse de se dégrader. Enquêter ou dénoncer les violations des droits humains signifie pour eux s'exposer à des représailles, des poursuites judiciaires, des pressions administratives, des campagnes de discrédit, des menaces ou attaques physiques pouvant aller jusqu'à l'assassinat, dont les auteurs et commanditaires ne sont qu'exceptionnellement traduits en justice. Il y a eu le cas d'Alexis Sokolov, qui dirige une organisation russe des droits humains et qui milite contre la torture et autres formes de mauvais traitements infligés aux détenus. En mai 2009, il a été arrêté et inculpé pour vol. D'abord condamné à 5 ans de prison, il a vu sa peine réduite en appel à 3 ans. Et le 18 août dernier, selon ses avocats, Alexei Sokolov devrait purger sa peine à Krasnoyarsk, je suis désolée pour la prononciation, qui est à plus de 2000 km de la ville d'Ekaterinbourg où il vit et où il était détenu jusqu'au 25 août 2010. Cela constitue une infraction aux normes internationales relatives aux droits humains selon lesquelles les détenus devraient autant que possible purger leur peine près de chez eux afin de permettre à leur famille de leur rendre visite. Le 26 août, Alexei Sokolov a été transféré dans un centre de détention provisoire à Novosibirsk, où il a été battu par des gardiens et détenu à l'isolement. On en est là aujourd'hui. 40 d'ONG russes se sont vues dans l'obligation de soumettre au parquet russe des documents administratifs et comptables qui étaient en relation avec une enquête en lien avec la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme. La directrice de la Transparency International en Russie, Elena Panfilova, n'a eu que 2 heures pour remettre les documents. Tout cela est fait non seulement pour compliquer le travail des journalistes qui continuent la lutte, mais également celui de toutes les organisations de défense des droits humains. La liberté de la presse est aussi compromise. Après les années Eltsine, caractérisées par un climat d'ouverture, permettant l'éclosion de nouveaux médias accompagnés d'une liberté de ton inédite, l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000 marque un tournant radical. La liste des médias nationaux indépendants est particulièrement réduite. La Novaya Gazeta, dont 4 journalistes ont été tués, parmi lesquels Anna Politkovskaya et Anastasia Baburova. Il reste les News Time et la radio Echo Moscou. Les journalistes russes ont bien compris le potentiel d'Internet et l'ont investi aussi. Et les sites d'information et les blogs font désormais l'objet d'une surveillance accrue. De plus en plus fréquemment, des blogueurs et des journalistes en ligne sont poursuivis en Russie en raison de leurs opinions et les sites sont bloqués. Enfin, l'impunité pour les auteurs et les commanditaires de crimes et violences contre les journalistes constitue l'aspect le plus alarmant de la situation de la liberté de la presse dans le pays. 25 journalistes russes sont morts et cette mort est liée à l'exercice de leurs fonctions. Et la justice n'a toujours pas été rendue.
Je me permets un petit commentaire sur ce que vient de dire Sabine. Je relève aussi quelque chose d'important, c'est que là aussi il est dit dans l'étude sur la Russie que le gouvernement russe retient comme raison de son immixtion dans les actions des autres et des ONG l'aspect sécuritaire, la lutte contre le terrorisme. On retrouve ça effectivement comme argument, bien sûr comme argument fallacieux. On retrouve ça aux États-Unis, on retrouve ça chez nous, on retrouve ça chez eux. Le terrorisme effectivement qui est bien évidemment un mal à combattre, personne ne va prétendre le contraire, mais le terrorisme est aussi très pratique pour des États qui veulent déraper dans l'aspect non-respect des droits fondamentaux comme argument pour prétendre effectivement protéger des citoyens qu'en fait ils ne protègent pas du tout.
Oui, et en fait ils deviennent très vite des terroristes et très vite des ennemis de la nation. Quoi que l'on fasse pour rien, on devient ennemi de la nation. Il y a eu une descente de police aussi au New Times, où ils sont venus réquisitionner les locaux de la rédaction. Et c'est toujours lié à des dénonciations. Lorsqu'un dossier est prêt, hop, on arrive, on le saisit, on réquisitionne. Et voilà. Donc, et effectivement, on traite. Quand ils sont pas arrêtés, la liberté de manifestation et de réunion est aussi remise en cause. Et les autorités moscovites ont refusé à plusieurs reprises la tenue de manifestations pacifiques en faveur de la liberté de réunion. Alors, ce qui est invraisemblable, c'est que le mouvement de défense du droit de la liberté d'expression, Stratégie 31, qui s'appuie sur l'article de la Constitution russe portant le même numéro et qui proclame que les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et manifestations, des marches et piquets. En fonçant le clou du symbole, ses membres appellent à manifester tous les 31 des mois, comptant évidemment 31 jours. Ça limite un petit peu déjà. Des rassemblements ont eu lieu à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans une quarantaine de villes russes, ainsi qu'à l'étranger, comme à Londres, en Allemagne, à Paris aussi. Les manifestations ne désarment pas face au refus des autorités et au prétexte pour tenter de saper la mobilisation. Le 31 août 2010, l'accès à la place Sriomalfanaya a été interdit par la mairie, sous des faux prétextes évidemment. Mais malgré tout, et bon, tout, à chaque manifestation, il y a des gens qui se font arrêter, qui sont détenus pendant 3-4 jours, qui se font un petit peu violenter, voire plus, mais le peuple russe continue de manifester. Il y a un élan en ce moment de ras-le-bol et de dénonciation, et il faut qu'il continue parce que c'est important, quoi. Il y a eu la détention aussi de militants d'Amnesty International le 25 août 2010. Des militants de plusieurs organisations, dont 5 d'Amnesty, ont été détenus par la police lors du concert du groupe U2 à Moscou. Bon, ils ont été appréhendés alors qu'ils tenaient des pancartes dans la salle de concert et recueillaient des signatures pour la campagne exigeant la dignité.
Si je peux me permettre aussi un petit mot, excuse-moi Sabine, c'est une petite précision, le groupe U2 effectivement est un groupe qui est très proche d'Amnesty depuis très longtemps, et à chacun de ses concerts il y a toujours un stand d'information autour d'Amnesty International. C'est important effectivement de le souligner parce que ce sont des gens qui nous aident depuis très longtemps. Et autre précision, c'est que la Russie figure, puisqu'on parlait de militants d'Amnesty qui ont été arrêtés en Russie, Amnesty figure, la Russie pardon, figure dans les pays prioritaires pour Amnesty, dans le sens où un des buts du mouvement Amnesty au niveau mondial est de développer effectivement des sections d'Amnesty importantes en Russie, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais effectivement de développer dans le sens de soutien à la population, etc., etc. Et donc, par rapport à tout ce que vient de dire Sabine, la Russie est une priorité pour le mouvement mondial.
Eh bien, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de volontaires.
Ça, c'est pas toujours, facile de défendre le droit, bien sûr. Il y a des gens qui prennent des risques plus que d'autres.
Enfin, bon, il me reste très peu de temps alors que j'avais plein de choses à dire. Bon, si ce n'est un petit coup de chapeau quand même. Bon, il y a la liberté aussi au niveau de l'art interdit, etc. Enfin, bon, on va limiter. Il y a quand même eu. Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, Stanislas Markelov, Anastasia Baburova, Zarema Sadouleiva et son mari Alik Dzai Brailov, Magomed Evloyev, Makhcharip Aouchev qui ont été assassinés, eux et tant d'autres, eux parmi tant d'autres, dont Anna, puisqu'on faisait l'anniversaire des 4 ans, Anna qui était une journaliste déterminée, militante et dévouée à la cause des droits humains, elle a été abattue le 7 octobre 2006 en bas de chez elle alors qu'elle venait de faire des courses, 2 balles dans la tête et 3 balles dans le cœur. Auteur de nombreux articles pour le journal Novaya Gazeta sur les violences au sein de l'armée, la corruption de l'appareil d'État et les brutalités policières. Anna avait obtenu de nombreuses récompenses pour la couverture du conflit tchétchène. En dehors de ses reportages, la journaliste publiait ses réflexions sur la politique russe, dont elle dénonçait l'arbitraire croissant sous la forme de livres non publiés en Russie pour la plupart. Juste avant sa mort, Anna travaillait sur un article consacré à la torture en Tchétchénie, photo à l'appui. Celui-ci a été publié sous la forme inachevée dans l'édition du 9 octobre 2006 à la Novaya Gazeta. Elle a vécu dans la terreur, elle savait que de toute façon elle finirait par être assassinée, elle avait des menaces constantes. Ce qui est terrible, c'est que tous les gens qui ont travaillé avec elle, dont Natalia Estemirova, Stanislas Markevlov, ils se voyaient en cachette un petit peu pour travailler parce qu'ils savaient que de toute façon, tout ce qui avait attrait à cette enquête, il serait éliminé. Et ça s'est effectivement précisé puisque Natalia, qui a continué, elle, son enquête, On a retrouvé son corps criblé de balles le 15 juillet 2009 aussi. Comme il me reste très peu de temps, je ne peux que vous recommander le livre d'Anna Politkovskaya, Qu'ai-je fait ? Il faut savoir aussi qu'en Russie, c'est pas seulement... Enfin, Anna se dénonçait surtout la barbarie et le génocide, parce que c'est un réel génocide contre le peuple tchétchène. Hein, j'ai des passages immondes, enfin, ça sera pour une autre émission, hein, parce qu'on essaiera de passer le film « Lettre à Anna ». Qu'on a eu le plaisir de voir à Val-de-Reuil il y a 15 jours, où Daniel Arthur, membre d'Amnesty, est venu nous parler un petit peu de la situation en Russie. Et elle disait effectivement que les autorités, enfin l'armée, enfin on torture, on tue allègrement les vieux, les femmes, les enfants, on mine. Enfin, on a l'impression que derrière tout ça, le but c'est un nettoyage ethnique et c'est terrible quoi. C'est terrible parce que rien ne transparaît. Même chez nous, on en entend très peu parler et c'est scandaleux.
C'est aussi pour ça que c'est un dossier prioritaire pour Amnesty, parce qu'effectivement, il y a un silence autour de la situation en Russie, en Occident, et donc c'est important. C'est important aussi d'aller sur le site pour signer la pétition qui existe toujours, qui est toujours en ligne, adressée à M. Poutine, et que je vous laisse le soin de découvrir, qui parle suffisamment d'elle-même. C'est important aussi de savoir, par rapport à tout ce que vient de dire Sabine, que tous ces gens qui sont persécutés, exécutés chez eux, ils ont effectivement un besoin important de soutien de l'extérieur. C'est pas du tout négligeable, ça, l'expérience d'Amnesty le montre depuis des années et des années. Le fait de savoir que des gens se mobilisent à travers le monde pour les soutenir, pour eux, c'est fondamentalement important. Et c'est un devoir, effectivement, d'aide qu'on a vis-à-vis de ces gens-là, qui font un travail remarquable, un travail dangereux et au risque de leur vie, et qu'effectivement on a au moins l'impératif moral de les soutenir à travers Amnesty ou autrement, bon nous évidemment on va vous dire à travers Amnesty, de les soutenir dans leur action. Donc surtout aller signer les pétitions, essayer de participer aux actions de soutien, c'est fondamentalement important et c'est comme ça que les choses petit à petit bougent.
Oui, je voulais aussi rajouter qu'à Sosnia aura lieu les championnats de ski en 2012 et ils commencent déjà à dégager la population, à nettoyer comme ils disent. Et juste pour finir, je vous recommande donc le livre d'Anna Politkovskaya, Qu'ai-je fait ? Et j'ai juste envie de vous dire, qu'ai-je fait ? Se demandait-elle dans un texte retrouvé sur son ordinateur après sa mort, en rappelant que son exigence de vérité l'a condamnée à travailler comme clandestine et qu'elle se refuserait toujours à faire sienne l'idée dominante en Russie que le monde est partagé entre les nôtres et les ennemis. Qu'ai-je fait ? J'ai seulement écrit ce dont j'étais témoin.
Une petite pause musicale après ces moments un peu dramatiques.
Qu'est-ce qu'on... On écoute quoi ? Rio.
On annonce le disque maintenant ou on l'annonce après ? On peut l'annoncer maintenant ?
Bon, on l'annonce
maintenant.
Vas-y.
Donc c'est Trio, c'est aussi un groupe qui a toujours manifesté son soutien par rapport à Amnesty, qui a participé, qu'on aime bien, qui a participé au Festival Rock aussi, deux fois au moins, ouais. Je crois, et qui a fait des concerts aussi en soutien par Amnesty. Enfin, ça fait partie des gens qu'on aime bien passer.
Regardez les alentours en passant avant de foncer tête baissée droit devant. Bienvenue citoyen, voici le monstre étatique qui fera ta nation, ton pays, sa politique. Mon pauvre esprit de rêve te voilà catapulté au milieu des sondages et du journal télévisé. Overdose de crapules noyées dans leur ramage.
Mais où se situer dans tout ce paysage?
Mais quand l'empire du pire au cœur de ta cité se mettra à sécher l'âme humaine au fond de son grenier, je sais que tu prendras tes convictions à la main, construisant une assise pour se sentir citoyen. Les extrêmes, c'est toi, nana.
Que tu ne vas te faire.
Mais les extrêmes, c'est toi, nana.
Bienvenue novice au marché électoral. A le temps d'aller s'inscrire.
Oublier.
Ou qui s'est érigé un de ses principes moraux.
De se sentir citoyen et de refuser d'aller sur la bataille.
Ils doivent se réjouir envahissant le nerf de la guerre. Récoltant le voix
de la bourgeoise à la fermière.
Tu n'imagines pas la puissance que tu es. L'histoire c'est toi qui l'as fait. Alors tu descends dans la rue combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main. Construisant une assise pour se sentir citoyen. Mais les extrêmes, c'est toi nana.
Tu quoi hein? Quand tu ne votes pas.
Mais les extrêmes, c'est toi nana. Tu veux être une pierre du barrage. Tu sais au moins que tu veux être une pierre du barrage. Alors tu descends dans la rue combattre la peste brune. Toi qui n'as jamais pris le chemin vers les urnes. Il est temps de brandir ses convictions à la main. Construisant une assise pour se sentir citoyen. L'autre, c'est toi, nana.
Quand tu ne votes pas.
Mais les extrêmes, c'est toi, nana. À gauche, à droite.
De retour, là je vais vous annoncer les bonnes nouvelles. Donc au Zimbabwe, un tribunal abandonne les poursuites à l'encontre d'un militant des mines de diamants. Amnesty International se félicite du renoncement aux poursuites à l'encontre d'un militant zimbabwéen incarcéré pendant 5 semaines après avoir dévoilé les atteintes aux droits humains commises dans les mines de diamants à Marange. En Colombie, un pas important reste à franchir maintenant que la Convention contre les disparitions forcées a été approuvée. En approuvant la nuit dernière, en séance plénière, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Chambre des représentants colombienne a pris une décision importante qui fera date. La Moldavie s'engage en faveur de la justice internationale. En ratifiant le statut de Rome de la Cour pénale internationale, le pays est devenu le 114e État prêt à s'attaquer aux violations des droits humains les plus graves. Il est bon de voir la Moldavie s'engager en faveur de la justice internationale et œuvrer pour mettre fin à l'impunité pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, a déclaré Christopher Kefal, conseiller municipal au sein du projet Justice internationale. Pour finir, Amnesty International salue la décision du président guatémaltèque de s'opposer à un texte de loi sur la peine de mort. À quelques jours de la journée mondiale contre la peine de mort, Amnesty International se félicite que le président Alvaro Colom se soit publiquement engagé à user de son droit de veto pour contrer une proposition de loi qui permettrait que la peine de mort soit de nouveau appliquée dans le pays. Je continuerai en vous rappelant que le 29 novembre, il y a notre expo vente artisanale et foire aux livres à la Halle des Expos.
Tout à fait, 29 novembre de 10h à 19h à la Halle des Expositions. Prochain rendez-vous pour tous les gens d'Evreux qui s'intéressent à nous, donc on vous attend. Et puis on va rappeler une petite nouvelle, je vois que mes partenaires d'en face me font des signes.
Nous avons nos acquis sociaux à défendre jeudi 28 octobre 14h30. Sabine, le rendez-vous.
Au Bel et Bain, à 14h30 le 28 octobre, à 10h, à Bernay, Louviers, Ponto de Mer, Vernon, à 10h. Réveillez-vous.
Une autre information que je voulais quand même vous donner, je vais vous en dire un mot très très vite parce qu'on est obligé de zapper un peu ce qu'on avait prévu de vous dire à la fin, c'est pas très grave, on recommencera la prochaine fois. Une décision qui a été prise dont Amnesty est tout à fait contente, le gouvernement français, enfin l'État français a décidé effectivement d'adopter un plan d'action pour la défense du droit des femmes. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans de précédentes émissions. Et donc c'est important de le souligner, même si pour l'instant c'est incomplet, insatisfaisant et surtout non financé, ce qu'Amnesty a souligné. Mais c'est un premier pas dans un domaine pour lequel Amnesty se bat en France depuis plus de 5 ans maintenant.
Et puis on recherche un local désespérément. Donc si vous avez un local, on a des livres à stocker et ça serait sympa de nous faire signe.
Ça pourrait faire le titre d'un film, groupe cherche local désespérément. Ouais, voilà.
Merci beaucoup
à
vous.
Merci à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée. À bientôt. Rendez-vous le mois prochain, le dernier mardi. J'ai pas la date en tête, mais c'est le dernier mardi du mois de novembre. Donc je sais pas, ça doit être le 31, non, le 30 ou le 31. Le 30, non, le 31, ça n'existe pas le 31 novembre. Donc ça doit être le 30, quelque chose comme
et
ça.
Et n'oubliez pas que vos signatures ont du pouvoir. Alors sur internet ou ailleurs, et venez si vous avez un petit peu de temps à accorder aux droits humains.
Voilà. Dernier appel, le site d'Amnesty France, amnesty.fr, et notre email amnesty.evreux@gmail.com. On vous attend, merci.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.